Allez, c'est parti, bonjour à tous, J-22, le podcast quotidien. Alors, petit réveil ce matin, 58,9 kg, poids tout à fait stable et correct. C'est bien. Saturation, 93. Oh non, qu'est-ce que je dis, 98 ? 93, ça aurait été un peu inquiétant, quoi. 98 de saturation, et donc là, bah, super, hein, vraiment, on est à quoi, 9 jours ? Ouais, 9 jours d'altitude. On pourrait presque commencer à faire des intensités, et le pouls à 46. Bah, ça, c'est étonnant. Bizarre. J'ai regardé sur ma montre, apparemment, elle aurait enregistré un 43 dans la nuit, mais guère mieux. Elle ne sait pas. Bon, on verra s'il rediminue plus tard. Et question aujourd'hui d'Arnaud G, que j'ai. Tu utilises quelles données de ta montre à l'UTMB ? Ça, c'est une bonne question, puisque c'est vrai que maintenant... On vous vend des montres, on vous les vend un peu cher, hein. Mais bon, vu que vous les achetez, on continue à les vendre, hein. C'est comme le iPhone, chaque année il y a un nouvel iPhone, bon bah, chaque année il est de plus en plus cher, chaque année vous l'achetez, voilà. Donc à un moment donné, il faut pas se plaindre du prix quand on l'encourage systématiquement en achetant le truc. C'est très simple, si vous voulez que le prix baisse, il suffit de pas en acheter, les gens baisseront le prix, hein. Mais bon, et c'est vrai que beaucoup peut-être perdent un temps considérable avec leur montre à regarder des paramètres, mais qui sont ridicules, puisqu'en fait, à un moment donné, vous avez des baskets aux pieds et on vous demande d'avancer en nature. Que vous soyez à 950 ou à 1025 mètres par heure, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Suivant la pente, ça veut rien dire. Suivant la technicité du terrain, ça veut rien dire. S'il fait chaud, t'es collé. Donc, je fais vraiment dans la simplicité avec la montre. Je dirais que le paramètre principal, c'est le chronomètre. Alors, en fait, ma montre... Si j'ai une montre, moi, c'est pour mes entraînements. Tu vois, j'aime bien voir où je vais, mettre un peu la navigation. À l'UTMB, j'ai pas besoin de la navigation, je connais le parcours par cœur, t'as même pas besoin de le baliser. Sur les autres courses, c'est différent, je mets la trace GPX dans la montre. Mais à l'UTMB, je regarde le chronomètre, parce qu'en fait, vu que je connais tout, j'ai juste besoin de contrôler à quelle heure je passe à tel endroit. Ça, c'est très important. Alors... C'est pas tout à fait vrai. Pour pouvoir vérifier que je passe aux ouches en... Je sais plus ce que j'ai mis là, 32 minutes, un truc comme ça. Et ben, je suis obligé de me canaliser dès le départ. Pour me canaliser dès le départ, la règle que j'ai faite l'an dernier, qui était très bien, c'était de courir à 15 km/h sur le plat. Sur les 3 premiers kilomètres de route. Et là, du coup, ben, évidemment, je vais regarder l'allure. Mais c'est le seul moment de l'UTMB où je regarde l'allure. Ensuite, je passe aux ouches, je regarde le chrono. Et toujours pour affiner mon jugement jusqu'aux ouches, eh ben, il y a des petites remontées là sur le chemin pour aller aux ouches. Évidemment, des descentes. Et dans les montées, je regarde que le cardio ne parte pas complètement en couille. En général, il est un peu élevé parce que on s'est beaucoup reposé les jours précédents, donc le cœur a tendance à monter assez rapidement, en fait. Parce qu'il y a toujours un peu de stress au départ, d'émotion. Donc vous avez beau penser que vous êtes plus malin que les autres et vous en êtes venu à bout, bah en fait, votre cardio, il est 5 pulses plus haut. Voilà. Ouais, il fait chaud. À Chamonix. Donc, Le cardio, je garde un œil dessus aussi dans les petites bosses, là, vite fait. Puis dès que j'arrive aux ouches, tac, je contrôle que je sois plus ou moins dans le bon chrono. Ouais, ok, quelques secondes près, pas de souci. Après, il y a la montée du délévré. Donc là, bah, jusqu'au sommet, je vais pas pouvoir regarder le chrono parce que je peux pas mettre non plus 10 000 points de passage. Et donc, jusqu'au sommet, je vais essayer d'affiner avec mes sensations par rapport au terrain parce que la montée est pas très régulière. Elle est parfois vraiment raide, donc là, bah, évidemment, on marche avec les bâtons. Parfois, elle est moins raide. Là, on peut se remettre à courir, mais il faut faire attention quand même. Donc, ça, c'est avec l'entraînement, j'essaye de sentir quand je peux recourir. Mais je corrèle toujours ma sensation au cardio. Parce que normalement, si je suis bien entraîné, bah, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Je suis parti avec le groupe de tête. Eh bien oui, moi j'avais la sensation que c'était facile. Erreur. Si j'aurais vérifié mon chrono, je ne serais pas parti avec le groupe de tête. Le cardio peut-être aussi. Donc voilà, je mets évidemment le chronomètre pour vérifier tous les points de passage. Et en plus, ça te permet d'affiner coup sur coup. C'est-à-dire que, par exemple, l'an dernier, j'avais l'impression d'avoir fait une mauvaise section depuis le refuge de la Balme jusqu'au col du Bonhomme. Je me suis dit, bah Hugo, t'es vraiment pas monté vite. Tu vois, j'avais perdu un peu de place. J'arrive au col du Bonhomme, je regarde le chrono. Je me dis, putain, merde, j'ai de l'avance. Du coup, pour aller au refuge du col du Bonhomme, qui est 3 bornes plus loin, il y a toute une partie un peu à plat, plat, monté, avec des cailloux, bah là, j'ai pas beaucoup couru, j'ai quasiment tout marché, je me suis dit, bah tiens, je vais gommer mon avance, tu vois. Plutôt que de continuer comme un couillon à être en sur-régime. Et quand je suis arrivé au point de contrôle d'après, bah vu que je m'étais dit, je ralentis, j'ai regardé le chrono, j'ai fait, ah bah là, je suis revenu pile sur les temps. Du coup, après, j'ai effectué ma descente jusqu'au Chapieux, comme je l'entendais, c'est-à-dire qu'elle est assez rapide, celle-là. Bon, sans s'exciter non plus, hein, bien sûr, mais on se freine pas, quoi. Voilà. Alors après, la fréquence cardiaque, je la regarde beaucoup dans les montées pour pas aller trop vite. Mais au final, ce que j'ai vu l'an passé, c'est que dès le col de la Seigne, ben, je vais pas trop vite, en fait. Naturellement, je suis calé sur un bon rythme. Voire même, il faudrait que je le monte un petit peu plus vite, ce col de la Seine. C'est vrai que j'ai toujours un peu du mal sur celui-là. Voilà. Et après, ben, à chaque fois, je contrôle mes points de passage au chrono, ce qui me permet de me mettre dans un mental différent pour la prochaine section, en me disant, ah ben là, il faut que tu accélères un petit peu. Ah ben là, t'es dans les temps, donc t'excites pas trop. Ah bah là, t'es un peu en avance, voilà, ralentis, reste une petite minute au ravito, bois un coup, mange un truc, repars, peinard, tu vois. J'affine comme ça au coup par coup avec mon chronomètre. Et donc, un peu l'FC. Après, j'affiche 3 autres trucs, en fait, sur mon écran principal. L'allure, elle est sur un deuxième écran, en fait. J'affiche aussi l'altitude. Je m'en sers pas trop, c'est plus récréatif qu'autre chose. Ça me divertit un peu l'esprit. C'est vrai que quand je suis dans une bosse, bah en général, soit je les connais, soit à chaque ravito, il y a des panneaux indicatifs. Donc on sait à combien de mètres d'altitude est le sommet. Et à ce moment-là, bah quand t'es au milieu de la bosse, tu te dis, ah, j'ai déjà fait 300 de D+, il me reste 200. Mais voilà, ça, c'est plus de l'ordre du divertissement mental. Les kilomètres, je les regarde vraiment pas beaucoup quand même. Un petit peu, il faut l'avouer, parce que ça va me permettre de juger si je suis loin ou pas du ravito, mais bah, vu que j'ai déjà le chrono, tu vois, sur ma feuille, je vois qu'il faut que j'arrive dans 1h10 au prochain. Ça fait une demi-heure, bon, bah, j'en déduis qu'il reste 40 minutes. Tu vois. J'ai pas nécessairement besoin de voir les kilomètres. C'est vrai que je les regarde vraiment très très peu. Le dénivelé, c'est pareil. C'est peut-être même le paramètre que je regarde le moins. Donc vraiment, le chronomètre, la fréquence cardiaque pour se freiner un petit peu, même si d'expérience, je sais qu'il y a la tendance à être un peu haute au début. Ça, voilà, c'est les petites choses que on regarde. Et puis Arnaud me demandait également les infos que je regarde sur ma montre, mais ce que doit me donner la personne qui me fait les ravitaillements. Et ben là, en fait, au risque de vous surprendre, assez peu de choses. Moi, putain, c'est quoi ça? Ah oui, mon message au coach est parti seulement maintenant. Bah, magnifique. Ah oui, tu m'étonnes qu'il ne l'ait pas vu si ça vient de s'envoyer. Moi, j'ai un plan de route. Alors évidemment, si la veille de la course, on apprend qu'il va pleuvoir tout le long et que le parcours va être modifié, on va faire autre chose. Hein. Pareil, si on apprend qu'il y a une canicule terrible, qu'on va prendre le départ, il fera 37 degrés à Chamonix, ben, il faudra revoir les temps de passage, parce qu'à ce moment-là, 22h30, ça va peut-être être le temps du vainqueur. Donc, la personne qui me fait les ravitaillements, en fait, son rôle, c'est pas de discuter avec moi. Moi, je viens pas sur l'UTMB parce que j'ai besoin de me faire des copains. C'est bon, des copains, j'en ai. Là, je suis sur l'UTMB, c'est pour réaliser une performance. Donc on va pas commencer à tailler le bout de gras, à se raconter sa vie. Ça sert à rien. C'est totalement inutile, c'est du temps perdu. Donc quand j'arrive au ravitaillement, j'enlève mon sac. Il remet les barres, il remet les flasques. Moi, pendant ce temps, soit je suis en train de me changer le t-shirt, soit je suis en train de changer de chaussures, soit je suis en train de taper un peu dans un tupperware de riz avec un peu de jambon, tu vois, on revient à des choses simples. Et une fois que c'est fait, je remets le sac et je me barre. Et on va pas commencer à dire « Ah ouais, t'as vu, machin, il a une chaussette rouge. Ah, puis bidule, il est 2 minutes devant, mais en fait, il a bu que 30 centilitres. Non, 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 j'en ai rien à cirer. Et les autres, ils peuvent réussir leur course, ils peuvent la rater. J'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas, j'ai aucune influence là-dessus. Donc, prendre l'information de l'état de ses concurrents, c'est déjà du commérage. Donc, quand t'as fait du commérage, t'as perdu ton temps parce que t'aurais pu utiliser ton temps pour faire autre chose. Donc, il va surtout rien me dire. Il va pas non plus me demander comment ça va parce que c'est pas ma grand-mère, tu vois. Comment ça va? Bah oui, t'es fatigué. Quand t'arrives à Courmayeur, t'as couru 80 bornes. Y a que les menteurs qui disent « Oh là là, mais tout va bien, c'est génial, j'ai l'impression d'être parti. » Ah non, mais t'es un énorme mythomane ou alors un gros feignant. Donc, ouais, non. Il fait attention, c'est ça, c'est important. Il fait attention à ce que je fasse tout ce que j'ai prévu. Parce que souvent, t'es pris dans la course, t'arrives au ravito, putain, ça te fait chier de t'arrêter, tu prends 2 flasques et tu repars. Mais, quand tu as prévu, par exemple au Contamine, d'enlever le t-shirt et te mettre un pull, parce que la nuit va être très fraîche, il faut que ton assistant fasse « Hop, 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 hop !»« Reviens ici, là !»« T'as pas changé le t-shirt, là !»« Allez, hop, plus vite que ça !» Parce que toi, t'étais en train d'en partir, tu fais « Ouais, non, mais en fait, j'ai pas froid !» Et là, il faut que l'assistant, il fasse « Non, mais ta gueule !» T'es pas là pour me dire « J'ai pas froid !» Dans une heure, tu vas dire « Ah, j'ai froid, gna 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 !» Sauf que je serai plus là. Donc tu fermes ta gueule, t'enlèves ton t-shirt, tu mets ton pull. Parce que ce matin, on a regardé la météo. En haut du col du bonhomme, il fait 3 degrés. Donc t'y vas avec un pull et t'y vas pas avec un t-shirt. Et si t'es pas content, t'en prends une. En plus de mettre le pull. Voilà. C'est comme ça que doit me parler mon assistant. Il est là pour m'encadrer. Il est pas là pour que je lui raconte ma vie. Après, donc la météo peut être très changeante à l'UTMB. Par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est que lui ait une info que moi, j'ai pas eue. Parce que tu vois, le départ de la course est à 18h. On se ravitaille au Contamine à 21h. Ben, éventuellement, peut-être que la pluie était annoncée en milieu de nuit. Et lui, finalement, il a un nouveau bulletin météo et putain, il n'y a plus de pluie. Donc là, il me dit, ouais, rassure-toi, t'auras pas la pluie au milieu de la nuit, apparemment, voilà, c'est, finalement, c'est dégagé, etc. Ça, ça peut être des informations intéressantes. Mais me raconter que le concurrent, il a bu un coca, puis après, il s'est gratté le cul, en termes d'informations, je sais pas si c'est capital, tu vois. Éventuellement, il peut me rappeler les temps de passage, si je les ai oubliés aussi. Ça... je peux avoir perdu mon papier, je peux me répéter, tu vois. Voilà, Hugo, t'es arrivé avec 5 minutes d'avance sur tes temps de passage. Voilà, Hugo, t'es arrivé avec 5 minutes de retard. T'sais, j'ai pas forcément regardé la montre. Quand t'arrives du ravito, c'est vrai que tu commences à te préparer, à enlever tes flasques et tout. Donc... voilà. Et puis la motivation, avec des phrases fortes. Bon, là, typiquement, on copie les paroles de Rambo... de Gran Torino aussi, avec le fameux « ta gueule, PD » exceptionnel. Ça, c'est si je râle, ça. Donc, l'aspect motivationnel. Par exemple, quand j'arrive à Champais, imaginons que j'arrive plus ou moins dans mes temps de passage, ce qui serait très bien. Mais c'est assez dur, donc à ce moment-là, on peut estimer que légitimement, j'éprouve une certaine fatigue. Par exemple, une phrase qui peut être intéressante, c'est de dire... Tu te mets face à ton quoi, tu fais « Bon ben voilà, maintenant t'y es là, c'est ici et maintenant. En sortant du ravito, faut que tu prennes une décision. Est-ce que je continue d'être une grosse merde ou est-ce que je réalise mon chrono ? Voilà, maintenant vas-y et puis tu réponds à la question. » Ça c'est une phrase qui motive. Ça. Alors, pour revenir sur les autres coureurs, c'est pas tout à fait vrai. À partir de Trian... ça peut être intéressant de dire « Ouais, il y a machin pas loin devant, il y a bidule pas loin devant. » Ça peut motiver à aller les rattraper. Parce que, à partir de Trian, je ne vais pas vous mentir, les temps de passage, on va commencer à se les tailler en bisous et à se les mettre dans le... À ce moment-là, si tu veux, je ne serais plus en train de me dire « Tiens, est-ce qu'il faut que j'accélère ou est-ce qu'il faut que je ralentisse ?» Normalement, autour de Trian, je serais en mode... t'avances coûte que coûte, quoi. Tu vois ? Quand tu passes Champais, il peut y avoir encore une petite gestion, parce que il faut trottiner au bord du lac, il faut trottiner sur la piste forestière montante. Après, il y a la bosse très raide, il faut bien la monter. Mais peut-être qu'il faut pas encore s'exciter là-dedans, parce qu'il y a encore les deux autres bosses, celle après Trian et celle à tête au vent. Je pense que c'est vraiment quand on passe Trian... où là, on peut se dire, putain, maintenant, je réfléchis plus, j'y vais, quoi. Mais à Champais, ça me semble un peu tôt. C'est envisageable, mais ça me semble un peu tôt. J'hésite. Alors, l'erreur ultime, ce serait qu'à Courmayeur, on dise, ouais, il y a machin juste devant, tu peux le rattraper. Ouh là là ! Hop, hop, hop ! Non, non, non ! On touche pas, surtout pas. Ouh là, malheureux. Voilà, quoi, donc... voilà Arnaud, des choses très simples, mais qui finalement ne sont pas applicables aux débutants, parce que je m'appuie sur le ressenti de 4 éditions. Tu vois, j'ai vécu 4 éditions de l'UTMB, c'est ça qui fait que quand j'arrive dans la montée du col de la Seigne, si tu veux, le rythme, je l'ai plus ou moins, quoi. Alors là maintenant, je sais... qu'il faut monter un poil plus vite, mais ce serait amusant de voir si avec une montre au poignet ou sans montre, j'arrivais pas en même temps à Courmayeur, tu vois. Parce que j'ai tellement l'habitude. Voilà. Pareil, la vitesse de la course, ok, je check le chrono, ok, je regarde la FC si elle part pas complètement en couille. Si elle n'est pas pile poil dans la zone, c'est pas très grave. Maintenant, si elle est 20 pulses au-dessus, là, il faut se calmer. Mais, encore une fois, c'est des indices que je vais prendre pour peaufiner mon ressenti de coureur sur le terrain, quoi. Alors, au début, il faut vraiment se freiner, parce que quand vous êtes en forme, au début, vous pouvez aller très vite et vous pouvez ne pas le sentir. C'est vraiment très piégeux. Par contre, normalement, à partir de Courmayeur, vous pouvez plus trop faire d'excès. Hein. C'est quand même difficile. Voilà. Voilà, donc Carnot, c'est vrai qu'en se basant sur 4 années d'expérience, bah, du coup, on s'affranchit quand même de beaucoup de problèmes. C'est aussi pour ça que je livre chaque année ma meilleure performance sur l'UTMB, c'est parce qu'à force d'y aller, bah, tu engranges de l'expérience année après année. Et au bout d'un moment, il y a tout un tas de questions que tu te posais au début qui te paraissent totalement... pas bénigne, mais normal, quoi. Ça roule, quoi. Tu vois. Bon, alors, sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de sport. Aujourd'hui, déjà 2 heures à jeun. Donc, quand on part à jeun comme ça, le but du jeu, c'est quand même de faire travailler un peu la lipolyse. Donc, évidemment, j'ai pas mangé. Et je n'ai pas eu faim du tout pendant ce run, pourtant 2 heures. Bien sûr, de l'eau et de la ceinture pour m'hydrater pendant ce run. Et là, j'ai senti ce matin que j'avais une bonne forme. J'avais de la force, en fait. Et j'étais capable de trottiner un peu dans les bosses. Alors après, vu que ça fait quand même vite monter le cardio, j'ai pas trottiné beaucoup, mais je l'ai fait un peu et je sentais que si je voulais, je pouvais le faire beaucoup. La descente, j'étais vraiment fluide. J'étais bien, je descendais assez vite, mais de manière naturelle, tu vois. Donc, à l'issue de ce run, j'étais vraiment très satisfait de ma condition physique. Et pourtant, il reste un petit peu de travail, et surtout, il reste aussi après beaucoup de repos et d'affûtage. Enfin, pas vraiment de repos, disons plus des journées faciles. Parce que une journée facile, ce serait quoi? Ce serait de faire ce run à jeun, et ensuite de ne plus faire de sport de la journée. Mais là, on est à S-3, on est encore un peu dans les blocs de travail, même s'ils sont diminués par rapport à l'année précédente, du fait de la course de Léguer en amont. Et du coup, cet après-midi, je suis allé faire 4 heures de vélo avec de la force. Ça, c'est un peu plus dur. Donc évidemment, en rentrant du run, j'ai pris un petit déj plutôt copieux, tu vois. Copieux, c'est-à-dire que... Donc c'était le petit déj classique. Et j'ai doublé les flocons d'avoine. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai mis un peu plus, mais je ne les ai pas doublés. Si, je les ai doublés. J'ai mis beaucoup de compote de pommes. Une pomme normale, bien sûr. Et en fait, après, pour vraiment avoir ma dose de glucides par rapport à un repas classique, où je mange beaucoup de riz, et je suis allé me chercher, mais une fois que j'avais fini mon petit déjeuner, et que je l'avais digéré depuis 15 minutes, enfin tu vois que le bol alimentaire était en plein travail et tout, je suis allé me chercher une petite part de flan avec un petit verre, enfin un très grand verre de jus d'orange fait maison. Alors, sachez-le, à la Maison Chevalot, le jus d'orange fait maison, ça coûte 5,60. Quand j'ai repris ma part de flan et mon jus d'orange et qu'elle m'a dit ça fera 10,10€, je l'ai regardé, je lui ai fait, j'ai pas assez. La dame, je lui dis, j'ai amené un billet de 10€, je pensais que c'était largement suffisant, je m'excuse. Elle me dit, oui, c'est bon, donnez-moi le billet de 10€, ça va. J'ai pas répondu, mais je voulais lui dire, mais en fait, là, le verre de jus d'orange, je le bois une fois, mais jamais je le reprendrai, quoi. 5,60. Et tu veux quoi? Tu veux que je te donne les clés de ma bagnole aussi? Oh, c'est un verre de jus d'orange. Tu les as achetés avec Oplus. Non, je sais pas où les acheter, mais enfin bon. Putain, là, ça... j'étais sur le cul, quoi. Mais c'est vrai qu'il a fait du bien. Puis le flan chez Chevalot, un délice. Alors, voyons si cette stratégie de manger cette petite part de flan après avoir plus ou moins digéré mon repas a porté ses fruits d'un point de vue de la glycémie. Donc, j'ai déjeuné à 9h. Ouais, 9h, glycémie stable. Putain, c'est magnifique. La glycémie est passée de 90 à 105 avec la part de flan. Autant dire, aucune variation. Alors par contre, le truc est complètement parti en couille à midi. Ouais. J'interroge mon ami Sébastien Diffenbrom sur ce sujet épineux. J'ai pas mal digéré, parce que je suis parti rouler qu'à 12h30, je crois. Bah, remarquez, 3h digestion. Et là, sur le vélo, j'ai tout de suite senti que j'avais les bonnes jambes. Je mettais la plaque dans le col de l'Iseran, bon, ça allait. Après, je l'ai un petit peu enlevé quand même, parce que le coach m'avait demandé de faire de l'endurance de force à 50-60 RPM, et il m'avait pas demandé de bourriner comme un bâtard à 40 RPM et à 70% de PMA, donc... Malgré que les jambes répondent bien, je me suis quand même calmé. Et puis surtout que quand j'ai fait le col de l'Iseran de l'autre côté, donc depuis Bonneval-sur-Arc, là, il est un peu plus raide, et effectivement, j'en ai chié. Et c'est toujours comme ça, quand c'est raide, vous avez la saloperie de vent de face. Alors là, c'était quand même un gros vent, parce que au sommet du col, je me suis arrêté. Je voulais poser mes papiers d'emballage Baou dans la poubelle. Putain, le vélo a commencé à s'envoler. Alors je l'ai rattrapé par le guidon. Saloperie de vent, dis donc. Donc voilà, endurance de force pendant 4 heures, toutes les côtes, donc deux fois l'Iseran, plus la remontée à Tignes depuis le barrage. À 50-60 RPM, au niveau du cardio, bah là, t'es quand même obligé d'être dans la zone du SV1. T'as du mal à être en dessous. Ce qui n'est pas déconnant. T'es plutôt sur la moitié basse du SV1. Enfin, en tout cas, je l'étais. Voilà, donc un entraînement un peu qui a laissé des traces. Ce qui fait qu'en rentrant, j'étais très fatigué. Je me suis fait une grosse pipe. Non, je déconne. Salade. Salade composée. Que j'ai bien salé, d'ailleurs. Ouais, j'ai bien salé. Après, j'avais mon petit foie de porc à finir, là. Hop. Et j'ai enquillé tout ça avec, bien sûr, 100 grammes de riz pesé cru, donc 250 grammes pesé cuit. Et puis après, il était quand même 18 heures, parce que j'ai mangé très lentement. Après, je me suis fait un dessert et tout. Et puis après, ben, j'ai mis les bottes de compression, parce que j'étais tellement en chaos que je pouvais plus rien faire. Et j'ai lu mon petit livre. Voilà. J'ai tracé mon petit parcours pour demain. Je me suis démené avec mon putain de téléphone, parce que, en fait, j'ai un forfait 30 gigaoctets. Parce que, je me disais, ouais, j'ai pas besoin des gigas, chez moi, j'ai la box internet, machin, bidule. Problème à Tignes. En fait, j'avais beaucoup consommé mon forfait parce que j'étais en animation avant d'aller à Tignes. Et des fois, quand je me fais chier, je regarde des vidéos sur YouTube. Et du coup, j'avais déjà pas mal consommé avant de monter. Et puis là, vu que je fais tout en partage de connexion... Et qu'est-ce que j'avais regardé sur Eurosport ? Ouais, bon, bref. Du coup, j'ai pris une recharge. Sauf que pour acheter une recharge, vous avez besoin d'Internet. Et quand vous avez dépassé votre forfait, ce connard bloque Internet. Alors, heureusement, la vie est bien faite. Il bloque... C'est Bouygues Télécom, là. Il bloque pas tout à fait Internet. En fait, le truc te permet de... Il te permet d'utiliser Internet de manière gratuite, mais avec un débit limité. Je ne mens pas, j'ai mis 30 minutes à acheter ma recharge sur l'espace client Bouygues Télécom. Putain. Oh, le merdier. En plus, vu que je vais regarder Cyrzinal sur Eurosport, bah, j'ai pris une recharge 10 balles là pour avoir 8 gigas. Donc j'ai vraiment eu l'impression de me faire enculer. Mais bon. Eh, hey, quand même, oh, on est là pour faire le podcast au quotidien. On n'est pas à 10 euros près. Le podcast, c'est sérieux, on respecte. Voilà. Donc écoutez, je me suis démené pour vous là ce soir. Je finis d'enregistrer, c'est 21h45. Bon, là, je vais aller me calmer dans le lit et lire mon petit livre pour essayer de dormir pas trop tard. Et puis, bah, évidemment, du coup, l'appartement ressemble à un camp de migrants. Il y a des fringues posées par terre de partout, c'est dégueulasse. Bah, la vaisselle n'est évidemment pas faite, rien n'est préparé pour demain, mais bon, ça va, demain j'ai un peu plus de temps. Voilà. Allez, je vous télécharge tout ça sur la petite plateforme Patreon, puisque c'est la règle, podcast quotidien, et vous le savez, on ne tergiverse pas avec la règle. Ça, c'est dans le film Le Transporteur. Excellent film. Allez, salut, à demain.